Hey, oh, à vous, les Burgiens, votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous. Un demi-siècle, ça se fête. La GLCA, la maison des associations de Bourg, est née dans les années 60. Pour l'occasion, Luan a rencontré Jean-Paul Godot, son président. Son interview, c'est dans quelques secondes. Leur marotte, c'est le jeu. Ils ont chacun leurs astuces pour gagner. C'est le choix des lecteurs de La Voix de l'Ain, notre partenaire. De notre côté, on s'est penché sur les probabilités et les stratégies mathématiques. Alors, avez-vous plus de chances d'avoir un enfant astronaute ou de gagner au loto? Réponse dans ce magazine. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM. Jean-Paul Godot est militant associatif dans différentes structures et depuis une dizaine d'années, c'est le président de l'AGLCA, la maison des associations de Bourg. Il a répondu aux questions de Luan.
En quelques mots, qu'est-ce que c'est que l'AGLCA ?
Alors, l'AGLCA, c'est une grosse association de Bourg-en-Bresse, mais qui a un rayonnement départemental, on va dire, voire régional pour un certain nombre d'actions, qui va œuvrer dans plusieurs directions, proposer aux associations, des bureaux et des salles d'activité ou de réunion, et également pour des particuliers qui souhaiteraient faire des fêtes de famille, par exemple, donc des salles. Et c'est une association qui va aussi proposer des services très diversifiés aux associations. Alors ça peut être des services techniques, mais également des services pour développer et, ou pour mettre en place, pour réfléchir à la création d'une association.
Vous fêtez cette année ses 50 ans ?
Très honnêtement, on n'a pas 50 ans, on a 52 ans. Donc on aurait dû fêter nos 50 ans en 2016. Il se trouve que nous avons actuellement énormément de chantiers très importants à mener, en particulier autour du projet associatif.
Jean-Paul Godot, c'était donc en 1966. Qui en était à l'origine ?
D'une part, la ville de Bourg-en-Bresse, mais également la ville de Bourg-en-Bresse avait interpellé l'UDAF, avait interpellé la CAF et avait appelé les bailleurs sociaux pour réfléchir à la possibilité de mettre à disposition des Burgiens des salles et des bureaux, et également de proposer un certain nombre de services. En 67, s'est créée par exemple une bibliothèque, la première bibliothèque de Bourg-en-Bresse. S'est créé aussi très rapidement un service qu'on pourrait appeler d'éducateur auprès des jeunes pour pouvoir leur proposer des activités et des occupations.
Qui avait besoin de l'AGLCA il y a 50 ans ?
Tout le monde. On proposait déjà des salles de réunion, des salles d'activité. Et puis, il était proposé aussi des activités proprement parlées, activités en direction des jeunes, activités sportives. On faisait un peu le travail qu'on pourrait appeler maintenant, qu'on pourrait trouver dans les centres sociaux. Il y avait des propositions de faire des excursions, de faire des activités diverses et variées, de travailler sur différents projets collectifs.
Combien comptez-vous d'associations aujourd'hui ?
On envisage qu'il y ait à peu près 12 500 associations sur le département de l'Ain. Des associations qui font appel aux services de la GLCA, aux différents services sous toutes leurs formes, une fois ou x fois dans l'année, il y en a à peu près 2 500. Mais ça peut être effectivement une fois juste pour louer une salle ou pour louer un bureau, comme ça peut être des demandes qui sont beaucoup plus régulières pour des associations pour lesquelles on va faire les feuilles de paye, par exemple des associations qui ont des salariés, ou des associations qui vont demander un accompagnement pour se développer ou pour rechercher des financements ou pour mettre en place un certain nombre d'actions.
J'imagine que c'est compliqué d'en gérer autant. Comment faites-vous ?
Alors en fait, ce n'est pas nous qui gérons les associations se gèrent. Nous, on est là, on est une boîte à outils. On est un couteau suisse qui proposant des services aux particuliers ou aux associations qui en ont des besoins. Donc ça va être, suivant les demandes, on va répondre au coup par coup. En sachant que de toute façon, les associations qui s'adressent à nous sont très différentes. Mais les besoins peuvent être aussi très, très, très larges et très différents les uns des autres.
Jean-Paul Godot, en quoi l'AGLCA si je voulais mettre en place une association, va-t-elle me faciliter la mise en place de mon association ?
Alors, plusieurs possibilités. Soit effectivement, vous êtes dans une optique de créer votre association et on va pouvoir vous accompagner, par exemple, pour la création des statuts. Que les choses soient faites dans les règles, la mise en place de l'Assemblée générale de création, le règlement de fonctionnement. Ça peut être la première chose. La seconde chose, vous êtes plus dans des besoins, on va dire, techniques. Et ça va être, par exemple, de mettre à votre disposition des salles de réunion, des bureaux, des services style pouvoir faire des photocopies. Et puis, petit à petit, bah, tout se passe bien. Puis l'association, elle se développe. Mais créer une association et faire fonctionner une association, ça peut être compliqué. Donc, vous allez avoir besoin de technicité que vous n'avez pas forcément sur les lois, sur les réglementations, sur tout ce qui concerne le travail. Et donc, on va être là pour vous soutenir, pour vous accompagner, soit par des conseils, soit par des services, je disais techniques, comme par exemple la possibilité pour votre association de qu'on vous accompagne dans les feuilles de paye, pour faire les feuilles de paye de vos salariés.
Les travaux de la Maison de la Culture et de la Citoyenneté ont commencé. Un nouveau projet pour l'AGLCA, qu'est-ce que c'est ?
Différentes choses. Il y a d'une part, on va dire, une réflexion qu'on mène justement avec la MJC de rapprochement. On ne sait pas aujourd'hui si ce rapprochement ira jusqu'à une fusion de nos deux structures. En tout cas, l'envie est très forte de la part de nos adhérents, de nos conseils d'administration et de nos salariés de ce rapprochement. Par exemple, dans ce futur bâtiment, en tout cas, les bureaux que nous utiliserons seront des bureaux communs entre les salariés de la MJC et de la GLCA, voire les salariés de la même entité s'il y a eu fusion. Et l'autre chose, c'est effectivement de faire vivre ce bâtiment. Et ça, pour faire vivre ce bâtiment, nous allons nous associer, ça faut commencer déjà, nous associer avec un certain nombre d'acteurs qui seront réunis dans ce bâtiment. Je disais la MJC, la GLCA, mais aussi Altec, mais aussi toutes les associations que l'on va héberger. Associations culturelles, associations qui pourront proposer un panel d'offres en direction des habitants de Bourg-en-Bresse et plus globalement de la Grande Aglo, voire du département.
Avec cette Maison de la Culture et de la Citoyenneté, est-ce que les missions de l'AGLCA vont changer ?
Les seules missions que l'on se donne, c'est de répondre aux besoins des associations. Aujourd'hui, on voit que les besoins évoluent. Par exemple, nous allons mettre en place un service numérique beaucoup plus performant pour permettre aux associations qui le souhaitent de créer des pages dans ce service pour parler de ce qu'elles font. Et ça permettra aux habitants du département de pouvoir avoir une offre exhaustive des propositions d'associations qui œuvrent dans leur commune ou dans leur territoire. Il y a aussi une volonté, je disais, de la ville, puisque c'est la ville qui crée ce futur bâtiment, effectivement, que l'on puisse regrouper au sein même d'une même structure une offre culturelle et citoyenne plus importante, plus globale. Donc, il y aura des projets d'animation qui se dérouleront tout au long de l'année sur différentes thématiques scientifiques, culturelles, artistiques. Ce sera des projets que l'on mettra en place à partir de 2019.
Merci Jean-Paul Godeau.
Merci à vous.
Jean-Paul Godeau, président de l'AGLCA, la Maison des associations de Bourg, interrogé par Luan.
Radio B, Radio.
Si on prend le loto français, donc c'est 49 numéros, une grille de 49 numéros, il faut en choisir 5. Et vous avez une deuxième grille avec 10 numéros, et là, il faut en cocher qu'une seule case. Donc pour calculer les probabilités de gagner, vous avez deux calculs à faire. Le premier, si on reprend la deuxième grille avec les 10 numéros, c'est simple, vous avez une chance sur 10. Pour le deuxième, la grille principale, où vous avez 49 numéros, là, on va chercher à calculer le nombre de combinaisons possibles. Et donc la chance d'avoir la combinaison gagnante. Donc je vous épargne la formule mathématique. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le résultat. Alors pour la grille principale où vous avez 49 numéros, vous avez 1 906 884 combinaisons possibles.
Donc plus d'un million de combinaisons possibles.
Et ensuite, vous multipliez encore par 10, puisque du coup, vous avez la deuxième grille avec les 10 numéros. Donc une chance sur 10. Donc on arrive à un total de quasiment, enfin un peu plus que 19 millions de combinaisons différentes, soit voilà, une chance sur à peu près 19 millions de gagner au loto.
Restez à l'écoute, ne soyez pas désespérés, vous l'entendrez, tout n'est pas perdu. La suite, c'est dans quelques minutes.
Aïe, putain de mauvais sort. Aïe, si jamais je m'en sors. Aïe, putain de mauvais sort. Aïe, si jamais je m'en sors. Je vous dis pas. Oh, dans ma petite Amazonie, elles ont dans les oreilles un Sony. Les filles aux pieds une chaîne. Oh, elles en pincent pour le hip-hop. Qui les traite un peu de salopes. Pour qui voulez-vous qu'on les prenne? Beethoven est pas dans les envies. Ivochi dans le R&B. Il est bon que pour le solfège. Oh, y'a des petits chanteurs français. Mais avant qu'ils te fassent danser, il en est tombé de la neige. Aïe, putain de mauvais sort. Aïe, si jamais je m'en sors. Aïe, putain de mauvais sort. Aïe, si jamais je m'en sors. Je vous dis pas. Oh, dans ma petite Amazonie, toutes les souris sont punies par le tribunal des coursives. Elles ont les ongles affûtés pour des connards qui disent pas bonjour. Mais par contre, qu'est-ce qui salive? Oh, des garçons pas des inconnus, qu'ont peur de les voir toutes nues au bras de celui qu'elles préfèrent. Et ils habitent juste à côté, des fois la chambre d'à côté. Les autres appellent ça des frères. Aïe, putain de mauvais sort. Aïe, si jamais je m'en sors. Aïe, putain de mauvais sort. Aïe, si jamais je m'en sors. Je vous dis pas.
Magie de Cherfi sur Radio B avec Aïe, une chanson de son dernier album Catégorie Reine. Peut-être l'avez-vous connue par le groupe Zebda. Magie de Cherfi sera sur la scène du théâtre de Bourg le 23 mars. À vous les Burgiens sur Radio B 90 FM. Leurs marottes, c'est le jeu, ils ont chacun leurs astuces pour gagner. C'est le choix des lecteurs de notre partenaire, La Voix de l'Ain. Nos confrères ont rencontré des habitants du département pour connaître leurs stratégies, leurs secrets. Et la science, elle dit quoi de tout ça? C'est le moment de ressortir vos cours de probabilité. Camille Roll, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission au pôle animation territoriale et communication à Altec. En quelques mots, Altec, c'est le centre de culture scientifique de l'Ain. Leur objectif, rendre la science accessible à tous. Camille Roll, première question, qu'est-ce que les sciences nous apprennent sur les jeux de hasard?
Dans le cadre des jeux de hasard, on va surtout parler de probabilité en fait. Ce que ça va nous apprendre surtout, c'est le nombre très restreint de chances qu'on a de pouvoir gagner. Si on prend le loto français, donc c'est 49 numéros, une grille de 49 numéros, il faut en choisir 5. Et vous avez une deuxième grille avec 10 numéros, et là il faut en cocher qu'une seule case. Donc pour calculer les probabilités de gagner, vous avez deux calculs à faire. Le premier, si on reprend la deuxième grille avec les 10 numéros, c'est simple, vous avez une chance sur 10. Pour le deuxième, la grille principale, où vous avez 49 numéros, là, on va chercher à calculer le nombre de combinaisons possibles et donc la chance d'avoir la combinaison gagnante. Donc, je vous épargne la formule mathématique. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le résultat. Alors, pour la grille principale, où vous avez 49 numéros, vous avez 1 906 884 combinaisons possibles.
Donc plus d'un million de combinaisons possibles.
Et ensuite, vous multipliez encore par 10, puisque du coup, vous avez la deuxième grille avec les 10 numéros, donc une chance sur 10. Donc on arrive à un total de quasiment, enfin un peu plus que 19 millions de combinaisons différentes, soit voilà, une chance sur à peu près 19 millions de gagner au loto.
On a par exemple plus de chances d'avoir un enfant astronaute que de gagner au loto.
Voilà, alors c'est ça qui peut être un petit peu drôle, de comparer les probabilités de gagner au loto avec d'autres probabilités. La chance d'avoir un enfant astronaute, alors même s'il y a des prédispositions pour faire ce métier, c'est 1 sur 12 millions, donc on est loin des 1 sur 19 millions de gagner au loto. Il y a d'autres probabilités qui sont assez rigolotes. Par exemple, naître avec 11 doigts, voire 12, c'est possible.
C'est possible.
Ouais, et vous avez largement plus de chances de naître avec 11 doigts que de gagner au loto. C'est naître avec 11 doigts, c'est une chance sur 20 000. D'autres probabilités, par exemple, que la Terre soit frappée par un astéroïde, on en entend souvent parler, c'est une chance sur 720 000.
Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Bah, une dernière, oui, alors qui est moins réjouissante du coup, celle d'être frappé par un avion en étant à l'extérieur de l'avion. Donc vous faire faucher par un avion, vous avez une chance sur 10 millions. Donc ça permet de relativiser un petit peu, alors c'est ce qu'on se dit toujours, hein, s'il y a des gens qui gagnent, c'est que j'ai forcément une chance, c'est pas faux, mais voilà, c'est une chance sur 19 millions. Alors ça n'empêche pas de gagner au loto.
Oui, ça n'empêche pas d'y gagner même deux fois.
Tout à fait. On a un exemple d'une personne qui a gagné deux fois au loto. Donc après, c'est vraiment une question de chance.
C'est qu'une question de chance. Parce que j'ai vu le cas de cette personne qui a gagné deux fois au loto et qui donc chaque mois dépensait plus d'un millier d'euros au loto en jouant toujours les mêmes combinaisons depuis la création du jeu en 1976.
C'est une manière d'augmenter ses chances. Après, à partir du moment où vous partez du principe que chaque combinaison a la même chance, il suffit de jouer plusieurs fois pour augmenter ses chances.
Camille Roll, peut-on scientifiquement parlant mettre toutes les chances de son côté pour gagner au loto ?
Bien sûr, alors scientifiquement oui, c'est même presque du bon sens. On a l'exemple d'un mathématicien roumain qui s'est amusé tout simplement à jouer toutes les combinaisons possibles sur un même tirage. Comme ça, il était sûr de gagner. Alors c'était un petit peu compliqué, ça s'est passé dans les années 60. Pour réussir son coup, on va dire, il avait deux contraintes de poids. La première, c'était de trouver une loterie où le ticket d'entrée n'était pas trop cher, puisque du coup, il devait acheter tous les tickets de la loterie. Alors sur la loterie qu'il a retenue, c'était une loterie australienne, où le ticket d'entrée était à 1$ pièce. Mais il avait calculé qu'il y avait un peu plus de 7 millions de grilles possibles. Donc il fallait aussi qu'il trouve des complices, entre guillemets, pour l'aider à remplir toutes ces grilles et trouver un généreux mécène qui est prêt à lui avancer 7 millions de dollars pour pouvoir acheter toutes les grilles. Ils sont arrivés à remplir à peu près 5 millions de grilles, ce qui n'a pas été suffisant, mais heureusement pour lui, il a quand même réussi à remporter la loterie. Voilà, donc,
il a remporté la totalité de la
somme ? Tout à fait, c'est ça. Donc il a remporté les 28 millions qui lui étaient promis.
Par rapport à la légalité, est-ce que c'est légal de faire ça, d'acheter toutes les grilles, les remplir ?
Techniquement, c'est tout à fait légal, mais on va dire que c'est pas trop encouragé. Et puis, il a quand même eu pas mal de chance, il faut dire, parce que sur les 7 millions de grilles, ils ont réussi à en remplir 5 millions. Ça faisait 70% de gagner, mais quand même 30% d'être complètement ruiné. 30% de chance d'être complètement ruiné.
Qu'est-ce qui est devenu ce mathématicien roumain ?
Donc malheureusement pour lui, en fait, il a raflé 28 millions, qu'il a dû partager avec ses complices, bien sûr. Il a une bonne partie qui a été prélevée par des taxes, donc il a fini quand même assez ruiné. Et par la suite, il a été tellement passionné par ces jeux de probabilité qu'il a entraîné pas mal de joueurs professionnels, de parieurs professionnels, et entraînant pas mal de ruines aussi pour derrière, donc un destin pas très joyeux.
Camille Roll, les sciences ne peuvent donc pas nous aider à gagner à chaque fois. Là, on parlait des probabilités, mais on peut peut-être prendre l'exemple des jeux plus de stratégie.
Là, vous allez pouvoir mettre en place des stratégies mathématiques plus ou moins complexes qui vont vous permettre soit d'être sûr de gagner, soit à défaut d'être sûr de ne pas perdre. Donc c'est déjà pas mal. Quand il existe une stratégie mathématique qui est imbattable, on dit à ce moment-là que le jeu est résolu.
Est-ce que vous avez un exemple de
voilà.
jeu ?
Un exemple assez parlant, donc c'est le jeu des bâtonnets, certains connaissent peut-être dans Fort Boyard. Donc vous avez deux joueurs, on a 20 bâtonnets au milieu de la table, et chaque joueur, en fait, chacun son tour, a le droit de piocher 1, 2 ou 3 bâtonnets. et celui qui pioche le dernier bâtonnet a perdu. Dans ce jeu-là, qui est un jeu résolu, vous avez une stratégie mathématique pour gagner. Si vous êtes le premier joueur, vous commencez par piocher 3 bâtonnets. Et ensuite, à chaque fois que c'est de votre tour, vous piochez 4 moins n bâtonnets. N étant le nombre de bâtonnets que votre adversaire va prendre. Par exemple, si votre adversaire prend 3 bâtonnets, vous n'en prenez qu'un. 4 moins 3 bâtonnets, ça fait 1. S'il en prend 2, vous en prenez 2, etc. Et avec cette stratégie-là, vous êtes sûr de gagner à condition que vous soyez le premier joueur. Et l'autre condition, c'est que bien sûr, votre adversaire ne connaisse pas cette stratégie. Sinon, ça... vous allez un peu tourner en rond. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes le premier joueur et que vous jouez avec un joueur débutant, vous pouvez essayer d'appliquer cette stratégie, vous êtes sûr de gagner.
Est-ce qu'on peut aussi parler de stratégie mathématique pour le poker, par exemple ?
Le poker, à l'inverse, c'est un jeu à information incomplète. C'est-à-dire que le joueur va connaître son jeu de cartes, mais il ne sait pas ce que les autres joueurs ont en face. Donc là, il n'y a pas forcément de stratégie mathématique. Par contre, il y a un certain nombre d'éléments capitaux qui vont permettre de favoriser une victoire, on va dire. Et c'est là, du coup, qu'on commence à parler de joueurs professionnels.
Camille Roll, on en a parlé dans l'actualité. Un Sud-Coréen a été battu au jeu de Go par un programme d'un célèbre moteur de recherche. Alors Camille Roll, est-ce qu'une machine pourra un jour gagner au loto ?
Bah, si on repart de l'exemple de Stéphane Mandel, le mathématicien roumain qui avait rempli 5 millions, alors ils étaient 35 pour le faire, mais 5 millions de grilles pour gagner l'auto, un ordinateur, vu sa vitesse de calcul, il pourrait en quelques secondes remplir ces 7 millions de grilles-là. Donc l'avantage de l'ordinateur par rapport à un être humain, ça va être la vitesse. Sur un jeu de loto, on est sur un jeu de hasard pur. Je pense pas qu'il y ait vraiment de stratégie à développer, ça c'est à voir. Mais l'avantage que la machine aura par rapport à l'être humain, c'est véritablement la vitesse.
Camille Roll, chargée de mission au pôle animation territoriale et communication à Altec, le centre de culture scientifique de l'Ain. Leur marotte, c'est le jeu, ils ont chacun leurs astuces pour gagner. C'est le choix des lecteurs de notre partenaire, La Voix de l'Ain, un dossier à retrouver dans le prochain numéro de l'hebdomadaire en kiosque ce vendredi 23 février. Vous découvrirez comment s'entraîne Christian Quesada, champion d'un jeu télé, ce qui se passe sur Internet ou encore comment le casino d'Hauteville gère les accros au jeu. Merci à Luan en stage à la radio la semaine dernière. Merci à Pauline à la réalisation et à vous pour votre écoute. Retrouvez à vous les Burgiens tous les lundis à 17h15, rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h et à tout moment sur notre site radio-b.fr.